Tu joues comme un dieu.
Merci. J'aime taper.
Rediffusion d'une émission Principe Actif. Une rediff, quoi.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes des élèves du collège des 7 épis. Aujourd'hui, nous allons vous présenter des interviews, des chroniques, des micro-trottoirs, des jeux et plein d'autres choses sur le thème des femmes et des femmes scientifiques. Notre équipe de tournage va vous dire plein de choses intéressantes sur les femmes et plus particulièrement des femmes scientifiques. Au sommaire de cette magnifique émission, il y a la météo du week-end, une chronique et un micro-trottoir sur les femmes scientifiques. Une interview sur notre prof d'SVT, Madame Duchesne-Obélex. Des chroniques sur le thème de l'orientation des jeunes filles. Un reportage et un interview sur Corinne Berbet. Une interview sur Marine de la saison Nous Toutes. Des jeux sur le thème des siècles des Lumières. Un micro-trottoir et une chronique sur le nom des femmes scientifiques sur la Tour Eiffel. Des infos sur l'effet Matilda et quelques femme scientifique, et pour finir, une chronique sur Sophie Ademo.
Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va vous parler de la météo de ce week-end. Donc samedi 14 février au matin, on a du vent qui est en direction du sud, entre 20 et 40 km par heure, un peu de soleil et une température de 5 degrés. Dans l'après-midi, on a toujours un peu de vent en direction du sud-est, toujours entre 20 et 40 km par heure. Il y a toujours un peu de soleil, mais on a 6-7 de degrés. Dans la soirée, on a du vent qui part en direction du nord avec 3-4 de degrés. Et pour finir, dans la nuit, on a du vent qui est en direction du nord avec 1 degré, avec un ressenti de moins 2 degrés, donc une probabilité de neige. Samedi 14 février, la journée de la Saint-Valentin, le soleil se lèvera exactement à 8h04 et se couchera à 18h14. Bonne Saint-Valentin à tous, j'espère que vous avez bien préparé votre soirée.
Bonjour à tous et à toutes. Alors, dimanche 15 février, au matin, il y a de la pluie et des nuages entre 4 et 5 degrés. Il y a du vent en direction du nord entre 30 et 50 km par heure. Dans l'après-midi, il y a de la pluie et des nuages entre 6 et 7 degrés. Il y a du vent en direction de l'est entre 25 et 60 km par heure. Dans la soirée, il y a de la pluie et des nuages entre 7 et 8 degrés. Il y a du vent en direction de l'est entre 25 et 60 km par heure. Pour finir, il y a de la pluie et des nuages entre 7 et 8 degrés. Il y a du vent en direction de l'est entre 25 et 60 km par heure. Dimanche 15 février, le soleil se lèvera exactement à 8h02 et se couchera à 18h16. Voilà toutes les informations de ce week-end. Bon week-end à tous et joyeux Saint-Valentin.
Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui vous parler de femmes de science jusqu'à maintenant inconnues qui ont pourtant eu des rôles très importants dans notre histoire.
Nous sommes donc partis en quête de réponses pour savoir si les gens connaissaient ces femmes.
Est-ce que vous connaissez des femmes scientifiques en particulier ?
Oui, certaines. Marie Curie.
Est-ce que vous voulez bien me donner des noms de femmes scientifiques ?
De femmes scientifiques de maintenant ou d'il y a longtemps ?
Les deux.
Alors, maintenant, Claudie Aigneret, Sophie Adenau. Et avant, je pense qu'il y avait Marie-Anne Lavoisier, Laura Bassi, Sophie Germain, Émilie Duchâtelet. Marie Curie.
Marie Curie. Sa fille Irène Joliot-Curie. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Après, je vois pas.
Alors, je suis professeur de lettres, hein, donc ça va être limité. Je connais Marie Curie. Irène, je crois, Joliot-Curie. Toute la famille Curie. Et je crois que c'est à peu près tout. Il faudrait que je réfléchisse longuement et on n'a peut-être pas trop le temps.
Marie Curie, je crois. Et après, sinon, je connais pas.
Oui, la fille de Marie Curie. Et... Le couple Lavoisier.
Et Marie Curie.
Le couple Lavoisier et Marie Curie.
Marie Curie, je connais que ça. Marie Curie.
Sa fille.
Tu sais ce qu'elle a fait?
Non.
Oui, Marie Curie, Louise Dupin.
Louise Dupin, Lily Châtelet,
Olympe de Gouges.
Marie Curie, Madame Lavoisier.
Marie Curie.
Marie Curie.
C'était une chimiste.
Vous connaissez
la découverte du radium et du polonium.
Est-ce que vous pourriez nous donner des noms de femmes scientifiques, si vous en connaissez, bien sûr.
Oui, il y a Marie Curie. Mmh. Claudie Aigneré.
Marie Curie. Après. Je ne connais pas d'autres à part Marie Curie, mais.
C'était des exemples de leurs travaux.
Elles ont travaillé dans les mathématiques, elles ont travaillé en sciences physiques, et elles ont traduit des ouvrages écrits par des hommes. Et aujourd'hui, Claudie Aigneré et Sophie Adnaud, ce sont des astronautes. Elles vont dans l'espace.
Oui, elle a travaillé, il me semble, sur tout ce qui est. Elle a travaillé sur les radios, sur les concepts de radiographie. Elle en est morte, d'ailleurs. Elle a travaillé sur tout ce qui était énergie.
Radio. Marie Curie, c'est surtout sur la radiation.
Alors, je sais que Marie Curie a travaillé sur la radioactivité, sans protection, qu'elle en est morte, et c'est à peu près tout, vraiment. Mes connaissances sont limitées.
Elle a fait des vaccins.
De Marie Curie, la radioactivité.
Marie Curie, par exemple, elle a inventé la radioactivité.
Marie Curie, je sais qu'elle a découvert la bombe nucléaire. Enfin, elle a découvert la radioactivité, mais c'est plutôt son mari qui l'a aidée dans son travail. Je sais qu'elle a pas tout découvert, mais en tout cas, je sais aussi qu'elle est morte à cause de ça. Donc, elle est décédée de sa propre découverte. Donc voilà.
Bah, Marie Curie est connue pour avoir découvert la radioactivité. Claudie Aigneré a été la première femme à aller dans l'espace.
Quels travaux vous ont le plus impressionné?
Laura Bassi, qui est une mathématicienne italienne, parce qu'elle a été la première prof de fac à Bologne, et en même temps, elle avait aussi 6 enfants.
Ça a été une découverte extrêmement importante. Et c'est un pas, ça nous a permis de découvrir, là, notamment travailler sur le radium, c'est découvrir surtout des maladies, ça a fait avancer la science, c'est exceptionnel ce qu'elle a fait.
Surtout la découverte de la radioactivité, parce que ça a été quand même un long travail, beaucoup d'heures passées en laboratoire, elle a travaillé avec détermination pendant un long moment, et je trouve ça admirable. Je ne sais pas si je serais capable de faire ça, parce que c'est un dévouement. Elle a passé sa vie à faire ça. Et je ne sais pas, moi, si je serais capable d'autant de dévouement.
Nous avons donc remarqué qu'avec notre micro-trottoir, que beaucoup d'élèves et de professeurs ne connaissaient que Marie Curie pour ses travaux sur la radioactivité, et que la plupart des gens n'ont pas beaucoup ou peu de connaissances sur d'autres femmes scientifiques.
On peut y citer Émilie du Châtelet du XVIIIe siècle, qui était connue pour sa traduction des Principia Mathematica de Newton.
Ou encore Katia Kraft, qui était volcanologue et a réalisé des films et des vidéos des éruptions volcaniques permettant de vulgariser la volcanologie et de sensibiliser le public aux risques volcaniques.
Et bien sûr, Sophie Adnaud, notre astronaute française, qui part aujourd'hui rejoindre la Station Spatiale Internationale pour 9 mois. Nous avons une pensée pour elle.
Pour conclure, nous espérons que nous vous avons permis de découvrir d'autres femmes scientifiques célèbres et de constater qu'il n'y a pas que les hommes qui ont contribué à l'évolution de la science.
Nous passons donc le relais à Kelly, Sarah et Léo.
Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à Véronique Duchazo-Bénex, professeure de sciences dans le collège Les Sept Épis à Saint-André-de-l'Eure. Elle nous enseigne les sciences dans la joie et l'amusement. Nous adorons ses vidéos de dissection d'animaux. Kelly, Sarah et moi allons l'interviewer pour comprendre ses idées et opinions sur les femmes des sciences. Quel a été votre parcours en tant que professeur avant d'arriver au collège? Combien d'années avez-vous étudié les sciences?
Bonjour à tous. Alors, pour étudier les sciences, j'ai commencé par 2 ans d'études à Créteil. Avant, ça s'appelait un DOG de biologie. Et après, je suis partie à Jussieu, j'ai fait ma licence, ma maîtrise et une année de prépa à agrégation pour faire professeur de SVT.
Vous sentez-vous comme une femme scientifique? Pourquoi?
Alors oui, je me sens comme une femme scientifique. Je ne sais pas si les deux mots vont forcément ensemble ou pas forcément ensemble. Enfin, en tout cas, je me sens comme un professeur bien dans ses baskets.
Qui est votre femme scientifique préférée? Pourquoi?
J'ai pas de femme scientifique préférée par contre. J'ai eu une prof de biologie qui m'a beaucoup inspirée quand j'étais moi-même lycéenne. Et c'est peut-être grâce à elle d'ailleurs que je suis devenue professeure. Mais après, j'ai pas de nom de femme scientifique plus inspirante que d'autres.
Qu'est-ce qui vous a amené à faire de la science au collège?
Alors le collège, j'étais pas là au début. Au début, j'étais professeure en prépa, j'ai été professeure en lycée, et puis après, j'ai suivi mon mari quand j'ai fait une mutation. Donc lui, il était normand, mais moi, j'étais de la région parisienne. Et donc après, je suis arrivée au collège et je m'y suis bien plu.
Selon vous, les femmes scientifiques sont plus fortes que les hommes selon leur parcours?
Je pense pas qu'elles soient plus fortes. Par contre, elles doivent être plus pugnaces parce que souvent les femmes ont plus de choses à prouver. Ça reste encore une société un petit peu patriarcale où il y a plus de reconnaissance facilement pour les hommes que pour les femmes. Et peut-être qu'il faut plus se battre quand on est une femme.
Pensez-vous que la science est une forme d'art?
Alors, c'est pas moi qui vais dire le contraire, parce que je fais quand même beaucoup d'art à côté. Je peins, je fais de la couture, je fais plein de bricolage. Donc, oui, c'est pas incompatible. Je pense qu'on peut exprimer de l'art, effectivement, à travers les sciences. Quand on fait des jolies dissections, par exemple.
Faut-il, pour être connue en tant que femme dans les sciences, travailler plus dur que les hommes scientifiques?
Mais c'est un petit peu comme tout à l'heure, oui, enfin plus dur, je sais pas, je pense qu'il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher davantage parce que il y a encore beaucoup de préjugés sur les femmes qui font des études et qui ont un cerveau. Et donc des fois, il faut se battre un petit peu plus.
Pensez-vous que les sciences peuvent tout expliquer? Pourquoi?
Tout expliquer, je sais pas, mais donner envie de découvrir et donner envie de comprendre et avoir envie aussi d'être tolérant par rapport à la diversité qui existe sur Terre, entre nous, j'espère que les sciences, ça donne envie de ça, ouais.
Comment entretenez-vous le lien prof-élève?
J'essaye d'être toujours de bonne humeur, même quand je ne le suis pas. J'essaie d'écouter mes élèves au maximum. J'espère être toujours là pour eux quand ils ont besoin. Ma porte est quand même globalement toujours ouverte. Donc c'est comme ça que j'essaie d'entretenir ce lien.
Pensez-vous que ce lien aide les élèves à mieux comprendre votre matière?
J'espère qu'au moins ça leur donne envie de venir en cours de SVT et qu'ils sont contents de me voir au moins une heure et demie par semaine, même s'ils n'accrochent pas forcément avec la matière. Au moins qu'ils sont contents d'avoir cette culture générale et cette envie de découvrir.
Pour vous, des filles qui suivent votre cours peuvent avoir envie de s'orienter dans les sciences après le collège?
Eh ben oui, figure-toi que j'ai des exemples quand même tous les ans d'anciennes élèves qui reviennent me voir. Donc j'ai eu une élève qui a été subjuguée par une expérience que j'avais fait sur la transmission du sida et donc du coup elle a décidé de devenir professeure de SVT. J'ai une élève que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps qui elle s'est dirigée vers les sciences parce qu'elle m'avait eu aussi. Donc c'est une reconnaissance, c'est toujours super émouvant en tant que professeur quand on a ce genre de retour.
Portez-vous le même regard sur les filles que les garçons dans votre cours? Pourquoi?
Oui, j'ai le même regard sur les deux parce que j'ai pas de préférence pour les garçons ou pour les filles. Je pense que les deux peuvent réussir et les deux sont attendrissants dans leur façon d'appréhender la vie.
Pour vous, les filles suivent-elles mieux le cours que les garçons dans votre matière? Pourquoi?
Les filles sont souvent plus studieuses que les garçons au collège. C'est l'âge qui veut ça, certainement, mais elles sont plus attentives, elles prennent plus de notes, elles révisent davantage les contrôles, alors que les garçons ont quand même tendance à se laisser vivre plus facilement.
Bah, eh bien, merci beaucoup à Madame Duchesse-Aubenex d'avoir accepté d'être interviewée.
Merci.
Et d'avoir répondu à nos questions. On retrouve maintenant Jalan et Mathis.
Bonjour, je suis Jalan et avec Mathis, on va vous parler chiffres.
Et Jalan, tu te rends compte, on est déjà en 4e. Il va falloir la penser à notre orientation de l'année prochaine. Tu sais ce que tu aimerais faire, toi?
Oui, je réfléchis, j'hésite entre esthéticienne, coiffeuse, décoratrice d'intérieur ou alors infirmière.
Ah mais Jalan, tu sors du Moyen-Âge, les choses ont changé maintenant. On est au 21e siècle. Tu peux en devenir ce que tu veux, tout est possible, avec de la motivation. Tu pourras être mécanicienne, PDG, médecin ou même présidente.
Alors on est allé regarder les chiffres et on s'est aperçu que les filles et les garçons ne font pas du tout les mêmes choix. Et on peut même vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui encore, les filles s'en rendent beaucoup moins dans les études de sciences. À la fin de la classe de seconde, par exemple, 70% des garçons choisissent les maths et seulement 50% des filles. Et 17% seulement des bachelières poursuivant des études optent pour des disciplines scientifiques contre 44% des garçons. Et c'est pareil en sciences numériques et informatiques, il n'y a que 3% des filles qui le choisissent contre 18% de garçons.
C'est étonnant tout ça.
C'est surtout parce qu'elles... parce qu'elles n'osent pas y aller. Il y a encore des stéréotypes de genre et beaucoup pensent qu'il y a des métiers d'hommes et des métiers de femmes et qu'elles ne réussiront pas. C'est pour cela que l'on n'a encore que 24% des femmes chez les ingénieurs.
Eh bien, à partir de maintenant, ça va changer.
Après la pause musicale, on va écouter une interview d'une chercheuse et enseignante.
Paraît que je suis forte comme un garçon, que je me bagarre comme un garçon, que j'ai l'air manqué comme un garçon. On dit que j'en ai dans le pantalon, mais moi je suis forte comme une fille. Je sais me battre comme une fille, j'ai la tête haute comme les autres filles. Paraît que je marche comme un garçon, que je dirige, que je suis pas sage quand je me force pas à sourire. Mais on m'écoute pas comme une fille, on me reluque comme une fille. On m'explique tout, on m'explique même le mansplaining. Et si je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers, quelle importance si je l'ai. Virile, pareil je me sape comme un garçon, que j'ai de la poigne comme un patron. Je pars à la guerre, je défends mon frère, je fais des affaires comme un garçon. Mais moi je bosse comme une fille, je suis patronne comme une fille. Je défends mes droits, je peux les perdre comme les autres filles. C'est pas mon genre comme un garçon de me laisser faire, mais comme une fille on m'a appris à toujours me taire. Rentre pas trop tard comme une fille, change de trottoir comme une fille, marche plus vite comme les autres filles. Et si je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers, quelle importance si je l'ai. Virile, fille virile, depuis que je suis gamine, maman sait que je suis masculine. Une fille virile, une fille virile. Maman sait que je suis masculine. Une fille virile, virile, fille virile. Depuis que je suis gamine, maman sait que je suis masculine. Une fille virile, une fille.
Rediffusion d'une émission de Prince Pactif. Une rediff quoi.
Bonjour, nous venons d'écouter Viril de Suzanne. Je m'appelle Tom et je suis accompagné de Thibaut, Anaï, Lilou, Julien et un autre Tom. Nous allons vous parler de Corinne Barbé, chercheuse et professeure de biologie, qui eut la gentillesse de nous accueillir dans son laboratoire à l'UIT d'Évreux, dans lequel nous avons posé des questions. Voici tout de suite notre reportage.
Bonjour, Corinne. Alors, en fait, le labo, il est derrière le bâtiment. Donc, bon, il y a un petit... Enfin, il y a pas très loin, mais il y a un petit peu de marche. Sinon, on peut traverser là, ce sera plus court.
Et ben, c'est parti.
Du coup, je suis Camille Pinson. On s'est eu au téléphone toutes les deux.
C'est vrai.
Donc, il y a ma collègue...
Nous entrons dans le laboratoire.
Les élèves. Donc, on a emmené les six. Il y a les trois qui vont... poser des petites questions aujourd'hui, et les trois, vous allez avoir un jeu. Comme ça, vous pourrez aussi parler avec
eux si vous avez un jeu. Il y a deux ailes du bâtiment avant le laboratoire, nous sommes dans la cour.
Eh oui, messieurs.
Enregistrez pas.
Nous allons rentrer dans une partie qui s'appelle l'aile G, amphi 3.
Merci. La porte qui est cachée là.
Ok. Il y a une porte cachée. On va enfiler des pouces bientôt, elle nous l'a dit. Oui. Les escaliers qui descendent.
Alors, pour monter jusqu'au deuxième.
Ok.
C'est là-haut, quoi.
Une salle qui s'appelle la salle 1227, accès au laboratoire.
Donc là, on va rentrer dans un sas avant de rentrer véritablement dans le labo. Et pour cela, avant, on est obligé de mettre une blouse. Okay. Donc voilà.
question.
Excusez-moi, ça sert à quoi de porter des blouses du coup dans le laboratoire?
Ah, alors ça c'est pour protéger le manipulateur. Parce qu'on travaille sur des bactéries, mais des bactéries, alors moi plutôt des bactéries bénéfiques, mais j'ai des collègues qui travaillent sur des bactéries pathogènes. Alors chez surtout les immunodéprimés. Ils sont pas très très pathogènes, hein. Faut être immunodéprimé pour développer une maladie. Mais bon, voilà, c'est bien de se protéger. Et puis aussi, on travaille avec des produits chimiques. Je vais pas faire rentrer dans la salle, mais vous montrer à l'extérieur que, voilà, on utilise pas mal de produits chimiques et il faut se protéger aussi contre les produits chimiques.
D'accord,
on fait de la biologie, mais on a beaucoup besoin de la chimie aussi pour extraire des molécules, identifier des choses.
Donc vous voyez que le laboratoire est divisé en plusieurs pièces et chaque pièce a sa propre thématique. Alors soit la microbiologie, la première.
C'est pas cette pièce-là. Mais...
Là, c'est une salle vraiment de microbiologie. Il y a un PSM, donc je sais même plus ce que veut dire PSM. L'objectif du PSM, c'est pour protéger le manipulateur, mais aussi être dans des conditions stériles.
Vous pouvez peut-être rentrer, ressortir.
C'est un appareil qu'on appelle PSM et qui va permettre de travailler dans les conditions stériles. Pour ne pas que nos bactéries, parce qu'on travaille sur une seule bactérie en général, et pour ne pas que nos bactéries soient contaminées par d'autres bactéries. Donc ça, un PSM, et ça, c'est les incubateurs. Incubateur, donc ça veut dire qu'en fait on va mettre en culture les bactéries dans différents récipients qu'on va appeler des herlaines. Donc là, en fait on ensemence les herlaines sous le PSM ici, et ensuite on va les incuber là à différentes températures en fonction de la bactérie. Donc là on a 37 et on a des Escherichia coli, peut-être que vous connaissez. On retrouve dans l'intestin, notre intestin. Après, sinon, on a des paillasses classiques avec différents matériels. Ça, c'est en fait une centrifugeuse pour pouvoir, ce qu'on appelle, culotter les bactéries pour pouvoir travailler dessus après. Enlever le milieu de culture et travailler que sur les bactéries.
Il y a des choses qui ressemblent à des frigos, d'autres à des fours. Aussi, il y a des choses comme on se sert à la cantine, qui ressemblent à des réfectoires. Aussi, il y a nos tables de physique-chimie avec des incubateurs. Voilà.
Mais voilà, ça c'est vraiment une salle typique de microbiologie avec un PSM où j'ai retrouvé ces postes à sécurité microbiologique et aussi donc différents incubateurs en fonction, on va régler la température, l'agitation, parce qu'il y a des bactéries qui ont besoin d'oxygène, donc c'est pour ça qu'on met de l'agitation. D'autres bactéries, au contraire, pour lesquelles l'oxygène est toxique. Et on va régler aussi la température, parce qu'il y a des bactéries qui vont plutôt croître à 37 degrés, d'autres à 30, à 35. Voilà, ça dépend de leur environnement.
Vous voulez qu'on continue?
Après, il y a certaines... Alors, cette salle-là, c'est pareil. Je ne sais pas si c'est vraiment utile. C'est aussi une salle spécialisée aussi pour la microbiologie. Donc là, PSM aussi. Ce qu'il n'y a pas dans l'autre pièce, c'est qu'en fait, on a des appareils ici qui nous permettent de suivre la croissance. Donc, la croissance des bactéries en fonction du temps. Donc faire des cinétiques. Cinétiques de croissance, savoir si elles se multiplient rapidement ou pas, en fonction du milieu de culture aussi. Et puis de la température. Toujours la température de croissance.
Oui, il y a beaucoup de radionateurs.
Utilisent plus pour la croissance des bactéries. Ils suivent au cours du temps.
Il y a beaucoup d'ordinateurs avec une grosse fréseuse numérique et il y a encore un PCM qui ressemble à un réfectoire de cantine.
Ça va, vous comprenez là ?
Oui. Et encore, c'est encore une salle climatisée.
Voilà. Voilà, il y avait des trucs, j'avais des problèmes. Donc là, vous avez par rapport aux deux autres pièces, en plus, vous avez une hotte chimique, donc une sorbonne. Donc sous cette sorbonne, on va pouvoir manipuler différents produits chimiques. Donc surtout pour protéger le manipulateur. Alors, on va commencer par celle-là. Celle-là, je vais vous expliquer, mais je ne vais pas vous la montrer puisqu'il y a un produit cancérigène dedans.
Donc, je vais pas vous montrer.
Alors là, c'est plus une pièce pour étudier justement l'ADN que vous n'avez pas encore vu. Voilà, le matériel génétique de nos cellules, mais après, c'est vrai que si vous n'avez pas appris ça en cours, ça va être un peu compliqué de vous expliquer. Il y a aussi là, donc cet appareil-là, on l'appelle aussi un PSM. Alors là, c'est plus pour protéger les échantillons. L'ADN, on manipule l'ADN sous cet appareil-là. Et pour éviter d'être contaminé par d'autres molécules d'ADN aussi, on utilise cet appareil-là, voilà, pour être un peu plus dans les conditions propres stériles. Là, c'est des appareils d'électrophorèse, mais c'est pareil, c'est plus